Le grand rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. La trêve a duré à peine le temps d'une messe, le temps d'une communion nationale où celui qui croyait au ciel comme celui qui n'y croyait pas se sont retrouvés dans la même émotion, la même affliction face aux flammes qui dévoraient Notre-Dame. Et puis est revenu le temps des querelles, querelles contre les riches, querelles entre les anciens et les modernes, querelles contre un président accusé de récupération. Retour des querelles donc et des gilets jaunes. Nouvelle journée de mobilisation hier sous très haut dispositif policier avant les annonces attendues cette semaine. Jeudi précisément d'Emmanuel Macron, annonce on cette fois avec les solutions que le président se propose d'apporter à la crise sociale et politique qui n'en finit pas. Après une brève trêve, la campagne européenne suspendue quelques heures a donc repris ses droits. Le débat politique aussi. Bonjour Nicolas Bay.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes eurodéputé sortant, vous êtes candidat sur la liste du Rassemblement National menée par Jordan Bardella et vous co-présidez actuellement le groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés, au Parlement européen. Nous allons évidemment parler avec vous de cette campagne européenne et du nouveau projet porté par le Rassemblement National que vous défendez. Nous allons parler aussi évidemment de l'actualité de cette semaine. L'incendie à Notre-Dame, les premières vraies fausses annonces d'Emmanuel Macron qui seront précisées dès jeudi en conférence de presse. Pour vous interroger aujourd'hui, Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Bonjour Cécile.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question, Nicolas
Bonjour Bay. Nicolas Bay.
Bonjour.
Nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, on l'a vu un peu partout en France et notamment à Paris. Mobilisation plutôt en baisse d'ailleurs ailleurs en province, mais en hausse dans la capitale. Vous avez soutenu dès le départ ce mouvement. Est-ce que vous continuez à soutenir cette mobilisation? Et on le voit avec des violences et un ras-le-bol aussi, notamment des commerçants.
Je crois qu'il faut dissocier clairement deux choses. Il y a les Gilets jaunes qui se sont mobilisés sans interruption depuis maintenant 23 samedis consécutifs.
Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez les manifestations, les rassemblements, est-ce que vous continuez à appeler à cette lutte de cette façon-là?
Non, mais on n'a jamais appelé à manifester. On a simplement dit depuis le début que ce que disent les Gilets jaunes sur le pouvoir d'achat, sur la fracture démocratique, sur la fracture territoriale, tout ça est légitime. Il nous appartient d'ailleurs, nous, comme formation politique, d'apporter des réponses. Et c'est ce que nous avons fait ces derniers mois. Certains ont essayé de récupérer ce mouvement. Mm-hmm. On voit bien que l'extrême gauche a essayé un peu de coloniser, de s'accaparer le mouvement des Gilets jaunes sans grand succès. Encore que, c'est vrai que depuis quelques semaines, on voit que l'extrême gauche la plus violente, les Black Blocs, les casseurs, ont essayé de parasiter ce mouvement.
Donc, avec cette dérive, vous dites il ne faut plus se rassembler de cette façon-là dans les rues.
On ne va pas interdire les manifestations. La responsabilité du gouvernement, il a toutes les peines du monde à l'assumer, c'est de mettre hors d'état de nuire les casseurs, la racaille, les Black Blocs.
Plus de 100 interpellations hier.
Le problème, c'est de les mettre hors d'état de nuire. Il y a quelques centaines de casseurs dans notre pays. C'est pas lié seulement aux Gilets jaunes. Ils avaient déjà fait la même chose lors du 1er mai dernier. À chaque fois, ils sont parfaitement identifiés par la police. Encore faut-il qu'il y ait des procédures judiciaires, qu'il y ait des sanctions, qu'ils soient condamnés à de la prison ferme et qu'ensuite ils purgent effectivement leur peine. C'est pas le cas, comme beaucoup de délinquants et criminels, malheureusement, dans notre pays. Donc, évidemment que ces violences, nous les condamnons sans aucune réserve. Mais moi, j'accepte pas qu'on fasse un amalgame avec l'immense majorité des Gilets jaunes qui sont parfaitement pacifiques. Moi, j'ai vu hier sur les réseaux sociaux une vidéo où on voyait des gilets jaunes qui étaient à la caisse d'une supérette qui payaient leurs articles et au même moment des casseurs qui étaient en train de piller et de faire une razzia sur le magasin. Et on voit bien que ce sont peut-être ceux qui vont se retrouver à peu près au même endroit de manifestation mais qui n'ont absolument rien à voir.
C'est de catégories qui n'ont rien à voir. Et les manifestants qui disent aux policiers « suicidez-vous », ça vous choque des phrases comme ça?
C'est évidemment scandaleux. Et moi, quand j'entends ça, je pense évidemment aux 28 policiers qui se sont suicidés l'an
Qu'est-ce
passé.
Qu'on peut faire pour
et je pense plus encore à leur famille qui doivent être terriblement éprouvés quand ils entendent ce genre d'atrocité.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette vague
là
du
encore,
suicide?
Il faut identifier ceux qui ont osé scander de tels propos et les condamner lourdement. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un laxisme total dans notre pays. Voilà, on essaye de restreindre les libertés publiques. On l'a vu avec la loi anti-casseurs, qui aurait été une loi anti-gilets jaunes, simplement parce qu'on a, on ne veut pas se donner réellement les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui voilà, commettent des délits, commettent des crimes, commettent des violences. Voilà, mais ne mélangeons pas tout. Il y a les gilets jaunes, il y a leurs revendications partagées par une immense majorité de Français, et il y a ceux qui essayent d'utiliser, d'instrumentaliser ce mouvement pour créer le chaos dans notre pays.
Mais Nicolas Bay, vous dites qu'il y a un laxisme total. Hier, il y avait 60 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés pour tenter de contenir l'ordre public. Il y a un nouvel appel à manifester qui est lancé pour le 1er mai. Vous-même, vous allez vous rassembler, puisque c'est une cérémonie traditionnelle pour le Rassemblement National. Vous serez à Metz. Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas un moment donné où il faut faire une trêve?
Je crois qu'on ne va pas interdire les manifestations au prétexte qu'il y a des casseurs qui essayent de parasiter les manifestations. Le problème est toujours le même. Les policiers font leur travail, le font souvent dans des conditions difficiles. Et nous, nous les soutenons sans aucune réserve. Mais ce qui est vrai dans nos banlieues, où les policiers interpellent des gens qui commettent des trafics, qui commettent des délits.
Là, pour l'instant, les violences, elles ne sont pas dans les banlieues, elles sont dans les centres-villes.
Oui, c'est le même mécanisme. Ensuite, c'est au moment du processus judiciaire qu'il y a une défaillance majeure, c'est-à-dire que ceux qui sont interpellés, souvent, ne sont pas traduits en justice. Quand ils sont traduits en justice, ils ne sont pas condamnés à la hauteur de ce que prévoit le code pénal. Et même quand ils sont condamnés à des peines, y compris des peines de prison, elles ne sont pas effectuées.
Donc laxisme de la justice,
ils ont un sentiment d'impunité qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, qui est une réalité qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui commettent des délits ou des crimes en France avec la quasi-certitude de ne jamais se retrouver derrière les barreaux.
Damien Fleurot.
On va revenir sur ce qui a marqué l'actualité ces derniers jours. Bien sûr, le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Lundi soir, on a assisté donc à un moment d'unité nationale. Hélène Jouan en parlait en introduction de l'émission. Certains, toutefois, accusent aujourd'hui le président d'en avoir trop fait et parle d'une récupération politique indécente. C'est notamment le cas d'Éric Ciotti ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. C'est votre avis aussi, Nicolas Bay ?
On sentait dans l'attitude d'Emmanuel Macron que bien sûr il participait à cette émotion nationale, mais qu'il y avait des petites arrière-pensées.
C'était fin, voilà. Selon vous, ces prises de parole ?
Non, je dis pas qu'il n'était pas sincère dans son propos. Je dis simplement qu'il y a quelques arrière-pensées politiciennes derrière.
Lesquelles ?
On le voit d'ailleurs quand il parle, par exemple, de reconstruire très différemment la flèche
mais
de Notre-Dame, comme s'il voulait marquer un peu de son empreinte personnelle, avec un peu de narcissisme, ce que va être la reconstruction de Notre-Dame. Je crois, voilà, les Français ont tous été meurtris par cet incendie. Voilà, on a tous souffert intimement parce qu'on voit bien que voilà, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre civilisation qui était embrasée. On a tous été un peu soulagés, il faut bien le dire, le lendemain matin, lorsqu'on a vu que l'édifice avait tenu et que même si les dégâts sont considérables.
Et d'avoir décalé la locution du président.
Oui, mais ça, c'était normal et on a tous fait ça. On a tous fait une trêve dans la campagne électorale, on l'a fait spontanément. Mais on voit bien qu'Emmanuel Macron essaye aujourd'hui de faire un peu feu de tout bois pour essayer d'échapper d'ailleurs au débat des élections européennes. Depuis plusieurs mois, il a lancé le grand débat, puis la restitution du grand débat, puis le séquençage des annonces qui résulteraient de ce grand débat, puis une tournée régionale qu'il a plus ou moins annoncée.
Enfin, l'incendie de Notre-Dame, il n'y est pour rien, a priori.
Non, il n'y est pour rien, mais on voit que finalement, c'est un événement que la France subit, mais qu'il essaye immédiatement d'exploiter dans le cadre d'un plan de communication qui vise malgré tout à échapper au verdict des urnes le 26 mai. Voilà, il faut que le débat des Européennes ait lieu. On a tous observé une trêve de 48 heures. C'est très bien, mais maintenant, il faut reprendre ce débat qui est important. On est à 5 semaines de l'échéance et Emmanuel Macron ne peut pas comme ça parasiter en permanence le débat des Européennes avec surtout des annonces qui n'en sont pas. Il a fait fuiter un certain nombre d'annonces qui sont assez
dérisoires. On va y revenir. Justement, votre tête de liste, Jordan Bardella, a été en meeting hier et il s'est demandé est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur les causes de l'incendie. Ça avait été le cas de Stéphane Ravier aussi, qui avait émis des doutes sur les causes accidentelles du drame, tout comme Nicolas Dupont-Aignan, l'ex-premier ministre putatif de Marine Le Pen. Or, on sait depuis hier que toutes l'enquête exclut définitivement la piste criminelle. Alors pourquoi laisser prospérer ce soupçon ? Pourquoi donner corps à peut-être des thèses complotistes ?
Non mais que sur le moment on s'interroge sur les causes.
C'était hier, Jordan Bardella.
Moi je me réjouis de voir que l'enquête a avancé rapidement et que la piste criminelle est totalement écartée.
Voilà, c'est donc il faut arrêter de continuer à alimenter un doute.
Mais évidemment on peut se poser la question. C'est vrai que dans notre pays il y a eu beaucoup d'actes de christianophobie qui se sont multipliés ces derniers mois, ces dernières années. condamnés. Et donc, qu'on se pose la question, c'est pas illégitime. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait, évidemment, les enquêteurs.
Mais c'est pas anodin, en meeting, de reposer la question alors qu'on sait que l'enquête a clos ce sujet.
Les enquêteurs ont fait un travail sérieux. Je pense qu'ils ont, évidemment, étudié toutes les pistes, y compris celle-là. Ils en arrivent à la conclusion que c'est, selon toute vraisemblance, accidentel. Je dirais tant mieux. Maintenant,
donc le Rassemblement national va arrêter maintenant de...
On n'a pas fait prospérer ce genre de thèse. On a simplement...
Vous l'avez alimenté notamment avec Jordan Bardella hier.
C'est quand même pas interdit de poser la question. C'est une question, encore une fois, que les enquêteurs eux-mêmes se sont posées. Maintenant, le plus important, c'est de reconstruire Notre-Dame, de reconstruire dans sa splendeur et dans son intégralité. Et donc, il faut que la flèche de Notre-Dame soit reconstruite à l'identique.
Pourquoi à l'identique ? C'est quoi ? C'est du narcissisme. Vous avez parlé tout à l'heure du narcissisme du président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas poser la question, cette cathédrale Notre-Dame, elle a déjà été reconstruite. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer faire autre chose ? Vous êtes à ce point conservateur qu'on ne puisse pas au moins se poser la question.
On peut toujours se poser la question. Mais enfin, dans le cas précis, la flèche, elle date, c'est vrai, de la fin du 19e siècle. Elle est plus récente que le reste de la cathédrale. Mais elle a été construite à l'époque par Viollet-le-Duc dans l'esprit et dans le style, en respectant scrupuleusement le style de la cathédrale. Et aujourd'hui, on voit que certains voudraient essayer d'apporter leur petite touche personnelle. Vous savez, notre patrimoine national, nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous en sommes simplement les dépositaires. On est chargé de le transmettre, de l'embellir, de le restaurer.
La pyramide du Louvre aujourd'hui installée dans la cour du Louvre, est-ce que ça fait partie de notre patrimoine national ?
Oui, on peut dire que ça commence à en faire partie, mais même si c'est assez récent. C'est un peu différent parce que ça a été construit à côté. Voilà. Donc là, encore une fois, on a la cathédrale Notre-Dame de Paris qui doit être restaurée, retrouver toute sa splendeur. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'affirmer de façon péremptoire, comme l'a fait le président de la République, que ça doit être fait en 5 ans. Moi, je ne suis pas architecte des monuments historiques. C'est aux professionnels du secteur de voir si ça doit durer 4 ans, 5 ans, 8 ans ou 10 ans. Le plus important, c'est que ce joyau de notre patrimoine qui nous rappelle et qui représente nos racines, les racines de notre civilisation européenne et chrétienne, eh bien que ce joyau soit totalement restauré.
Dernière question pour cette première partie. Damien Fleurot, Cécile Cornudet qui prend la parole. Damien.
Sur les dons, peut-être une polémique aussi, plus d'un milliard d'euros déjà collectés et une polémique concernant bien l'origine de ces dons, certaines grandes entreprises françaises qui ont participé à cette collecte. Vous avez été aussi, vous, choqué ?
Non, j'ai pas été choqué et... Vous savez, on n'est pas avare de critiques à l'égard d'un certain nombre de grands groupes au Rassemblement National. Quand ils ont des politiques d'évitement fiscal ou des politiques de l'emploi qui nous semblent scandaleuses, on n'hésite pas à le dire. Dans le cas précis, que des grands industriels, des chefs d'entreprise ou simplement des grandes fortunes participent de cet élan national pour reconstruire Notre-Dame de Paris, je trouve ça très louable, très respectable. Et honnêtement, enclencher des polémiques sur le montant des dons...
notamment des gilets jaunes.
Je trouve que ça n'est pas... très digne.
Il faut garder les règles de défiscalisation telles
qu'elles
sont.
Les règles, elles existent. S'il faut les modifier, modifions-les. Mais enfin, je crois même que certains de ces grands donateurs ont indiqué qu'ils étaient prêts à renoncer à l'avantage fiscal. Donc voilà, ne leur faisons pas de mauvaise querelle.
Pas de mauvaise querelle. Nicolas Bay, candidat sur la liste du Rassemblement National et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer les éventuelles annonces du président de la République. On les attend pour jeudi. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet.
Damien Fleurot. Hélène Jouan.
Nicolas Bay, candidat sur la liste du Rassemblement National et l'invité du Grand Rendez-vous. On l'a dit, c'est jeudi qu'Emmanuel Macron détaillera au cours d'une conférence de presse les mesures qu'il compte prendre pour essayer d'éteindre la crise politique, démocratique et sociale qui est née dans ce pays à l'automne dernier. Néanmoins, son premier plan d'annonce prévu le soir même de l'incendie a fuité en quelque sorte. Donc on a quelques pistes. Question de Cécile Cornudet.
Oui, parmi ces pistes, il y a la réindexation des pensions de retraite en dessous de 2000 euros, le moratoire des suppressions de classes et d'hôpitaux, la suppression de certaines niches fiscales. En fait, Marine Le Pen pensait que la sortie du grand débat conduirait Emmanuel Macron à accroître son libéralisme réformateur. Et en fait, c'est tout le contraire.
On voit surtout que, exactement comme son allocution solennelle au mois de décembre, il est beaucoup plus dans l'annulation d'un certain nombre de mesures qui étaient annoncées ou qui étaient déjà prises.
Oui, mais vous disiez qu'elles étaient mauvaises, donc c'est pas mal.
Ou le simple report, d'ailleurs, d'un certain nombre de ces mesures. On voit surtout que Emmanuel Macron n'a pas compris la nature profonde de ce mouvement des Gilets jaunes soutenu au moins dans ses débuts, par une très large majorité de Français. Il n'a pas compris que ce que les Français attendent, ce n'est pas des ajustements à la marge d'orientation politique.
Il y a des gestes de pouvoir d'achat. C'était quand même le cœur de la revendication.
La revendication initiale, c'était la fiscalité. On est à un niveau confiscatoire dans notre pays.
Oui, mais si on baisse l'impôt sur le revenu.
48% de prélèvement obligatoire par rapport au PIB, il faut baisser massivement la fiscalité. Aujourd'hui, ce qu'il propose, il consent des petits ajustements qui, évidemment, ne sont pas à la hauteur
des situations. Mais vous vous en félicitez énormément. Puisque Cécile Cornudet le rappelait, c'est aussi ce que vous demandiez, la réindexation des pensions de retraite.
Oui, mais comme mesure d'urgence, mais en réalité, ce que les Français veulent, c'est un changement de cap. Quid des protections économiques qui ont été toutes supprimées les unes après les autres? Quid du modèle de libre-échange total qu'Emmanuel Macron défend et qu'il défend d'ailleurs, quoi qu'il s'en défende, dans la campagne européenne? Est-ce qu'on continue à payer des milliards d'euros par an dans la politique de la ville en pure inefficacité? Est-ce qu'on continue avec la politique d'immigration? Est-ce qu'on continue avec le fédéralisme européen à marche forcée? Et finalement, tant qu'il ne répond pas à toutes ces grandes questions qui sont des questions de fond où les Français attendent un changement de cap, eh bien, il pourra toujours annoncer des mesurettes, il pourra toujours relâcher quelques centaines de millions, quelques milliards par-ci par-là. Fondamentalement, ça ne changera rien à la situation du pays, à la situation des Français.
Alors, pour financer ces mesures en faveur du pouvoir d'achat et les baisses d'impôts, Emmanuel Macron semble disposé à relancer, à rouvrir le débat sur le travailler plus. Selon vous, quel curseur peut-on bouger? Est-ce qu'il faut, par exemple, revenir sur les 35 heures, travailler peut-être 39 heures, revenir sur la suppression d'un jour férié, l'âge du départ aussi à la retraite?
Mais je crois qu'il faut surtout avoir comme maître mot la liberté. Que les Français aient la possibilité de travailler plus et de gagner plus. Voilà, parce que beaucoup qui défendent aujourd'hui de revenir aux 39 heures, c'est pour être payé 35 heures.
Ils seront majoritairement opposés au fait de travailler plus?
Pas nécessairement. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui sont prêts, si les conditions sont favorables, avec la défiscalisation des heures supplémentaires.
Ça, c'est déjà fait.
Ça existe déjà. Mais l'idée de travailler plus, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui
supprimer un jour férié, par
aucune difficulté. Oui, ça, je crois que ça relève plus du gadget qu'autre chose. Mais en
revanche, pourquoi du gadget?
Parce qu'on voit bien que c'est une mesure qui est plus symbolique qu'autre chose. Ce qu'il faut,
c'est quelques milliards pour financer éventuellement la dépendance.
Oui, d'accord, mais ce qu'il faut, c'est avoir une réflexion globale sur notre modèle économique. On voit bien qu'on est dans un modèle qui n'est pas viable. On est dans une économie totalement ouverte. On a abaissé les protections à l'intérieur de l'Europe avec, évidemment, à la clé, une concurrence déloyale très grande, notamment des pays de l'Est. On a abaissé aussi les barrières douanières à l'échelle européenne et aujourd'hui, des grands pôles, des grands ensembles, des grandes puissances comme les États-Unis ou comme la Chine, utilisent l'Europe comme un véritable terrain de jeu. Donc c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en cause. Il faut rétablir des protections. Il faut alléger la fiscalité sur les entreprises et aussi sur les ménages, fortement, pas simplement augmenter pour les uns, diminuer pour les autres, abaisser globalement la fiscalité pour redonner de l'oxygène à notre économie, redonner du pouvoir d'achat aux Français et puis rétablir les protections qui sont mises en œuvre partout dans le monde. Emmanuel Macron, il défend aujourd'hui un modèle qui est celui des années 90, du libre-échange totalement dérégulé à l'échelle mondiale, qui n'est plus imité nulle part. Et il devrait s'interroger justement sur ce modèle-là. Alors que dans la campagne européenne, eh bien, il défend justement l'accélération dans ce modèle-là. Il veut donner plus de pouvoir à la Commission européenne.
Il a dit non à la réouverture de négociations commerciales avec les États-Unis.
Oui, d'accord, mais ça ne dépend pas de lui. Il ne peut pas dire à la fois on va donner plus de pouvoir à la Commission européenne, mais la Commission européenne, elle s'affranchit de l'avis des États, de l'avis des gouvernements et même de l'avis du Parlement pour engager.
Non, là, en l'occurrence, il était effectivement un peu seul, mais enfin, il a essayé de s'opposer.
Ah, il est très seul, ça, je vous le confirme. Sur la scène européenne, jamais la France, jamais l'exécutif français n'a été aussi isolé. Il est dans une situation où il se retrouve dans une espèce de tête-à-tête avec Juncker, avec Merkel, à défendre un modèle européen qui consiste à aller plus loin dans les échecs et dans les écueils de l'Union européenne actuelle, alors que partout sur le continent s'exprime pourtant une volonté très différente d'une Europe des nations, des coopérations beaucoup plus pragmatiques, avec des vraies protections.
Nicolas Bay, vous prenez un choc fiscal pour tout le monde. On n'a pas très bien compris comment vous financez tout ça.
Je vais vous répondre.
Mais sur les retraites, vous préconisez aussi toujours de ramener l'âge de la retraite à 60 ans. Et là encore, on ne comprend pas comment vous financez. On est à 62 ans aujourd'hui. Le débat est plutôt savoir si on le recule. Vous, vous dites non, on revient à 60 ans.
D'abord, sur la fiscalité. Bien sûr que si on diminue les impôts, il faut faire des économies dans la dépense publique. Non pas sur l'hôpital, la police ou la justice, qui sont aujourd'hui à l'os. Au contraire, il faut sanctuariser et même augmenter les budgets dans ces domaines-là. Mais il y a beaucoup de gisements d'économies. La fraude sociale, ça représente environ 20 milliards d'euros. La fraude fiscale, fiscale, elle représente entre 50 et 60 milliards
d'euros.
Personne
n'est d'accord sur ces chiffres, on demande justement une évaluation précise.
Il y a eu beaucoup d'évaluations, c'est à peu près cette fourchette-là. Le millefeuille territorial, l'enchevêtrement des compétences, qui aboutit à un accroissement considérable des dépenses de fonctionnement et de personnel des collectivités locales, sans qu'il y ait une amélioration du service pour les Français. Évidemment, c'est un gisement d'économie. La politique d'immigration dont je parlais tout à l'heure, tout le monde sait qu'entre les coûts directs et indirects, ça représente des dizaines et des dizaines de milliards d'euros par an. Donc il y a évidemment des possibilités, mais il faut s'attaquer à des tabous, il faut s'attaquer à des gisements dont personne ne parle, alors que la seule solution qu'Emmanuel Macron, comme d'ailleurs il faut bien le dire les gouvernements précédents, c'est demander des sacrifices toujours plus importants aux Français. Sur les retraites, on voit bien que les gouvernements successifs ont comme seule solution pour équilibrer notre système par répartition de dire il faut accroître, augmenter la durée de cotisation. Mais c'est évidemment pas une solution. D'abord,
puisque l'espérance de vie
s'allonge. Oui, d'accord, mais d'abord c'est assez injuste parce que c'est toujours aux mêmes qu'on demande des sacrifices. Mais surtout,
c'est-à-dire à ceux qui travaillent.
Bah oui, c'est ça.
De façon indifférente.
Mais c'est quand même les classes populaires et les classes moyennes qui n'ont pas le choix, qui sont un peu enfermées dans ce modèle de retraite par répartition qui en font les frais. Mais surtout, un système de retraite comme le nôtre, auquel nous sommes attachés, eh bien, il y a principalement deux leviers qui permettent de l'équilibrer. C'est l'emploi d'abord et la natalité. Voilà. Si dans un contexte de chômage de masse, vous augmentez la durée de cotisation, eh bien, ce que vous allez gagner sur la retraite, vous allez le perdre sur l'assurance chômage. C'est-à-dire que les comptes sociaux ne seront pas davantage équilibrés. Donc, ce qu'il faut, c'est retrouver le chemin du plein emploi ou d'un chômage raisonnable, donc changer de modèle économique, et ça renvoie à notre débat précédent, et par ailleurs, avoir une vraie politique familiale d'encouragement aux familles, de soutien aux familles. Il y a des mesures sociales et des mesures fiscales qui sont prises aujourd'hui en Italie ou en Hongrie et qui se révèlent très efficaces, qui ont un impact direct, immédiatement ou dans les années qui suivent.
Ils ont pour l'instant un taux de natalité très en deçà du nôtre.
C'est exact, mais justement, ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils ont raison. Mais nous, on a une natalité qui est pas la pire en Europe,
donc qui est même une des meilleures, même si elle faiblit.
C'est vrai, mais elle faiblit exactement, et donc il faut anticiper, gouverner, c'est prévoir, et donc il faut des vraies politiques de soutien aux familles, parce que c'est le meilleur moyen. Plus on aura de cotisants demain, plus on aura la possibilité d'équilibrer notre système de retraite. Donc demander aux Français de travailler toujours plus longtemps, c'est pas du tout une solution.
Il y avait un gros sujet chez les Gilets jaunes, c'était l'ISF. Emmanuel Macron refuse de le rétablir, mais est très ouvert sur son adaptation après l'évaluation qui va avoir lieu. Est-ce que cet équilibre-là vous convient ?
Non, il ne me convient pas, et on voit bien que c'est un symbole. C'est le symbole d'Emmanuel Macron qui frappe durement ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé avec la hausse de la CSG, qui frappe le capital uniquement dans ce qu'il a de durable et d'enraciné, le capital immobilier en exonérant les yachts, les produits de luxe, les placements boursiers, et qui a allégé au maximum la fiscalité sur les flux de capitaux. Nous, ce que nous défendons, c'est exactement le modèle contraire. C'est-à-dire alléger la fiscalité sur les revenus du travail au maximum, qu'elle soit raisonnable sur le capital lorsqu'il est réinvesti dans le tissu de TPE-PME française, ou qu'il est investi dans l'immobilier, parce que souvent, c'est des gens aussi qui ont travaillé toute leur vie pour avoir un bien immobilier, ou qui en ont hérité, et qui souvent, avec des revenus parfois modestes, essayent simplement de l'entretenir, et ça fait partie de notre patrimoine national, et évidemment, une fiscalité beaucoup plus forte sur les mouvements de capitaux, c'est-à-dire sur la spéculation.
Dans les annonces probables du chef de l'État la semaine prochaine, celle du référendum d'initiative citoyenne, mais cantonné aux sujets locaux, est-ce que vous vous dites que c'est un bon premier pas ?
Non, c'est une marque de mépris à l'égard des Français. Cette revendication du référendum d'initiative citoyenne, une initiative populaire largement partagée par les Français, ça permet d'abroger une loi ou d'adopter une loi. Abroger une loi que le gouvernement a fait adopter par la majorité mais dont les Français ne veulent pas, ou au contraire, adopter une loi que le gouvernement rechigne à présenter devant l'Assemblée nationale. Bon, dire on va faire un référendum d'initiative citoyenne au niveau local, c'est mépriser cette revendication des Français. Pourquoi ? Parce que la question, c'est pas de savoir où est-ce qu'on va mettre le rond-point ou le nombre d'étages de la médiathèque. Et c'est pas des questions de politique locale. Il faut respecter les Français. Respecter les Français, c'est leur demander leur avis sur les grands sujets.
Mais ils pourraient proposer aussi un référendum d'initiative partagée assoupli, c'est-à-dire plus facile qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça ne suffit pas.
Pourquoi ont-ils peur à ce point de la démocratie? De la démocratie directe. On a une démocratie représentative qui est malade. Un système, un mode de scrutin majoritaire qui permet un exercice sectaire du pouvoir par une majorité de 300 députés qui ne représente absolument pas l'opinion publique. Il n'y a pas un pays en Europe qui a encore un modèle un mode de scrutin majoritaire comme le nôtre. Donc il faut une vraie démocratie représentative avec la proportionnelle. Et
il semble enclin à accroître le niveau de proportionnel qui était prévu.
Une petite dose homéopathique de proportionnelle. Là encore, c'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et la démocratie directe, c'est ce qui va permettre aux Français de se réapproprier s'approprier la vie démocratique. On peut pas avoir une petite caste, une petite élite, dont on voit aujourd'hui qu'elle est en rupture avec 80 ou 75% de l'opinion publique, décider de tout de manière unilatérale, sectaire. On peut, la démocratie française ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc le RIC local, c'est une marque supplémentaire du mépris qu'Emmanuel Macron a déjà souvent manifesté malheureusement ces derniers mois à l'égard des Français.
Nicolas Bay, candidat sur la liste du Rassemblement National et l'invité du Grand Rendez-vous. On parle Europe. Quelle campagne pour le Rassemblement National ? On se retrouve dans un instant.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nicolas Bay, eurodéputé sortant et candidat sur la liste du Rassemblement National pour les élections européennes du 26 mai, l'invité du Grand Rendez-vous. Nicolas Bay, Marine Le Pen a de nouveau été convoqué par la justice cette semaine pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires des eurodéputés FN devenus Rassemblement National, affaire dans laquelle vous êtes vous-même mis en examen. Est-ce que vous savez si cette fois Marine Le Pen a répondu aux questions des juges, ce qu'elle s'était refusée à faire jusqu'ici ?
Oui, Marine Le Pen a toujours été respectueuse de la justice. Mais ce qui nous pose un vrai problème, c'est l'accélération de la procédure, la procédure judiciaire à chaque fois qu'on est en période électorale.
Oui, mais comme elle ne répond pas,
elle purge
un certain nombre de pourvois qu'elle peut faire.
Elle défend ses droits.
On est dans un état de droit, elle défend ses droits,
donc elle utilise évidemment la loi pour défendre ses droits, et c'est bien normal. Voilà, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on est en période électorale, notamment dans la dernière ligne droite, on a soudain une espèce d'accélération des procédures, on multiplie les effets, on requalifie les dossiers, etc.
Aux questions des juges,
oui,
cette fois.
Oui, je crois qu'elle a passé plusieurs heures sur place, donc elle a répondu aux questions, mais il y a derrière cette affaire qui est ancienne et sur laquelle on a déjà tout dit, nos assistants parlementaires ont travaillé dans le cadre de leur travail avec les députés et donc on a respecté la loi.
C'est ce que la justice cherche à savoir.
Oui, d'accord, mais c'est normal. Qu'il y ait une enquête, c'est acceptable. Mais il y a un principe fondamental du droit, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie. Or aujourd'hui, on a le magistrat instructeur principal qui est un cadre du syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche. Elle était la responsable pour l'Île-de-France du syndicat de la magistrature, à qui on doit le mur des cons, qui était une manifestation de mépris incroyable.
Vous parlez de la juge Claire Thépeau ?
Oui, absolument. Elle était responsable du syndicat de la magistrature pour l'Île-de-France. C'est une organisation qui appelle à voter.
Et c'est un droit aussi d'être syndiqué.
Bien sûr, mais c'est une organisation qui appelle à voter aux élections contre le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez vraiment que ce magistrat, cette magistrate en l'occurrence, peut faire un travail parfaitement impartial s'agissant d'un parti et des responsables de ce parti ou des parlementaires de ce parti dont elle est ouvertement un adversaire politique. Moi, si vous me demandez demain de juger quelqu'un qui est mon adversaire politique, même si j'essaye d'être de bonne foi, je pense que j'arriverai pas à avoir l'impartialité. Donc on a un problème juridique très grave.
Mais vous dénoncez une justice politique ou une accélération du calendrier judiciaire parce que nous sommes en campagne des européennes.
Je fais le constat qu'aujourd'hui, de manière répétée, et ça concerne pas que le Rassemblement National, on assiste à une instrumentalisation de la justice avec des procédures qui émergent ou qui accélèrent au gré des campagnes électorales, alors qu'il y a une grande tradition en France, au nom d'ailleurs de la séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, c'est justement de veiller à ce qu'il n'y ait
sauf
pas de télescopage entre les procédures
et les campagnes.
En permanence
des élections en France, des scrutins européens, c'était il y a quelques mois l'élection présidentielle. Donc dans ces cas-là, la justice fonctionnerait à quel moment ?
Et non, c'est pas vrai. Nous avons, c'est vrai, des élections presque tous les ans. Encore que l'an passé, il n'y en avait pas.
Et vous en demandez d'ailleurs.
Mais qu'il y ait des procédures qui connaissent des développements nouveaux à quelques semaines de l'élection, je pense que c'est extrêmement malsain et ça décrédibilise totalement l'institution judiciaire. Parce que les Français ont ce sentiment que, évidemment, il y a un certain nombre de magistrats qui utilisent les moyens qui sont les leurs à des fins à des fins politiques, c'est-à-dire pour influencer directement les électeurs. Voilà. Sur l'affaire des assistants parlementaires, nous sommes à l'aise. On a déjà tout dit sur cette question. On a déjà répondu aux accusations.
Non, puisque, encore une fois, Marine Le Pen a refusé de répondre aux questions des juges jusqu'à cette semaine, semble-t-il.
Ça n'est pas exact. Elle avait déjà accepté une convocation il y a quelques mois. Elle avait simplement refusé en pleine période de campagne présidentielle parce que ça lui semblait totalement attentatoire au principe, justement, d'indépendance de la justice.
C'est vous avez assisté cette semaine aux adieux de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen et vous l'avez applaudi. Or, quand on l'écoute bien, il s'est monté très sceptique sur votre capacité à changer l'Europe de l'intérieur, même si vous gagnez les élections. Est-ce qu'il dit pas tout haut ce qui une réalité que vous pouvez pas assumer aujourd'hui ?
Bah, je crois que je suis peut-être beaucoup plus optimiste que lui. Vous savez, Jean-Marie Le Pen a marqué la vie politique, l'histoire de la Ve République. Il a été élu parlementaire pour la première fois il y a 63 ans. Il achève son dernier mandat au Parlement européen.
Il sait suffisamment bien comment ça se passe pour voir que c'est impossible à réformer de l'intérieur.
Oui, mais encore qu'il y a actuellement une modification en profondeur du paysage politique européen. Il y a une tectonique des plaques, en quelque sorte, à l'échelle continentale, avec l'émergence de partis nationaux, patriotes, souverainistes, partout en Europe. Mais moi, j'ai voulu saluer, avec mes collègues d'ailleurs, le parcours de Jean-Marie Le Pen. On a des divergences. Elles se sont exprimées d'ailleurs ces dernières années. Elles sont réelles. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de constance, de solidité dans son engagement politique. On peut avoir un jugement réservé ou nuancé sur tel ou tel aspect, mais voilà, force est de reconnaître que c'est un parcours politique un peu exceptionnel qui a été le sien.
Mais il faut prendre avec distance ce qu'il dit parfois.
Bien sûr, bien sûr. On a eu des divergences et peut-être nous en aurons à nouveau.
Quelques jours avant justement cette sortie, ces adieux au Parlement européen, Jean-Marie Le Pen affirmait dans le journal L'Opinion, il donnait une interview, il avait quelques phrases reprises de lui. Il parlait d'Alain Soral qui a été condamné pour négationnisme. Il a jugé que finalement Alain Soral avait été condamné pour une opinion, a-t-il dit. Vous pouvez ne pas croire en Dieu, mais vous n'avez pas le droit de ne pas croire dans les camps d'extermination, s'est-il désolé. Est-ce que là, c'est une divergence ou vous continuez d'applaudir Jean-Marie Le Pen ?
Non, mais ça a toujours été une divergence. J'ai eu l'occasion maintes fois, comme d'ailleurs la plupart des dirigeants du mouvement, d'exprimer cette divergence. Donc il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais c'est la constance de Jean-Marie Le Pen.
Oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit. On peut saluer le parcours du personnage, sa longévité sur la scène politique, mais nous avons des points de divergence majeurs. Celui-là, évidemment, en fait partie.
Une autre personnalité en marge ou proche de votre famille politique fait parler d'elle, c'est Marion Maréchal. Le Pen, elle est d'ailleurs actuellement à Yalta, dans un rassemblement de proches de Vladimir Poutine, avec des personnalités politiques d'ailleurs de gauche et de droite. Et est-ce que on sent des tensions à nouveau ressurgir entre Marion Maréchal et Marine Le Pen ? Vous étiez proche de Marion Maréchal. Est-ce que vous êtes comme elle un nouveau conservateur, ou plutôt comme Marion Maréchal ?
Il y a beaucoup de questions en une. D'abord, Marion Maréchal Le Pen n'est plus dans le combat politique et électoral.
Elle fait parler beaucoup d'elle
Elle est dans le débat des idées. Elle est au forum de Yalta, qui est un grand forum économique avec des personnalités, des partis politiques, des responsables économiques ou du monde entier. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller l'an passé. C'est pas un club des amis de Vladimir Poutine. Voilà, je pense que c'est un peu restrictif de présenter les choses comme ça.
Ce rendez-vous, mais
oui, mais il y en a beaucoup des forums économiques. Celui-là en fait partie et c'est un forum économique intéressant. Je crois pas du tout qu'il y ait des tensions. Moi, je me définis pas comme conservateur ou néoconservateur parce que je pense que c'est peut-être un peu restrictif. Mais il y a des choses à conserver. Quand on voit Notre-Dame de Paris en train de brûler, on voit bien que nous avons, et on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses à conserver. Mais on ne se limite pas simplement à la conservation.
Mais ce n'est pas anodin qu'elle dise ça, parce qu'elle sait que Marine Le Pen n'est pas du tout sur ce mot-là.
Elles expriment chacune des sensibilités. Moi, ce que je peux vous dire, me concernant, c'est que je suis attaché à notre identité, à notre histoire, à notre civilisation, à notre culture. Et je pense que c'est justement cet attachement et cette capacité à savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons conserver qui peut nous permettre de nous projeter dans l'avenir vers le progrès, vers des grandes coopérations, vers les grands défis de demain. Défendre notre identité, y compris à l'échelle européenne, préserver nos valeurs de civilisation, mais aussi des grands défis d'avenir. Je pense à la sécurité alimentaire, je pense à la protection des données numériques. Tout ça nécessite des coopérations à l'échelle européenne. Mais pour avoir des grands projets européens, encore faut-il de savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Voilà, l'Europe, c'est pas une construction technocratique qui existe depuis 60 ans. C'est la Grèce, c'est la Rome antique, la raison et le droit grec et le droit romain, c'est la chrétienté qui a façonné notre histoire et dont Notre-Dame de Paris est l'un des emblèmes.
Avec qui porter ces grands projets européens, Cécile Cornudet ?
Marine Le Pen veut créer une alliance des nations. Elle est cette semaine à Prague. Le 18 mai, elle sera avec Matteo Salvini. Pourtant, on a l'impression que cette alliance des nations est plus compliquée que prévu. Elle n'était pas le 9 avril à Rome avec Matteo Salvini quand il a essayé de rassembler des gens autour de lui. On sent que c'est compliqué avec les pays de l'Est, notamment avec la Pologne. Alors, je voudrais savoir où vous identifiez les freins ? Est-ce que c'est vos affinités pro-russes ? Est-ce que c'est vos ennuis judiciaires, comme on l'entend parfois ? Pourquoi c'est si compliqué ?
Alors d'abord, c'est pas compliqué. Et je pense même que notre alliance, qui est déjà une réalité, mais qui va connaître un accroissement important en nombre de députés, nombre de partis demain, elle fonctionne aujourd'hui très bien et beaucoup mieux que les autres formations politiques, les autres partis politiques européens. Moi, je suis président de notre groupe au Parlement européen. On a 40
mais
députés.
Mais l'idée, c'était de l'élargir, de ce groupe, et notamment avec la Pologne, avec des pays de l'Est qu'on sent réticents.
Il va être considérablement élargi. Et Matteo Salvini, le 8 avril, et pas le 9, a fait un appel à une large coalition. Mmh. Il parlait au nom de l'ensemble des partis et des leaders qui composent actuellement le groupe Europe des Nations et des Libertés. C'est pour ça que ni les Autrichiens, ni les Français n'étaient présents. Mais ils parlaient en notre nom, avec des partis qui aujourd'hui siègent dans d'autres groupes, mais vont nous rejoindre. C'est le cas des Allemands de l'AFD, c'est le cas des vrais Finlandais ou du Parti du Peuple Danois. Il y a quelques jours, j'étais en Estonie et nous avons obtenu le ralliement à notre rassemblement, à notre coalition du parti ECRE, qui d'ailleurs fait partie de la coalition gouvernementale en Estonie. Nous avons des alliés tchèques, slovaques qui vont entrer au Parlement européen. Nous avons d'excellentes relations avec les Espagnols de Vox qui vont sans doute obtenir un excellent résultat aux élections législatives du 28 avril et peut-être plus encore aux élections européennes à la fin du mois de mai. Donc on a aujourd'hui à l'échelle européenne...
Vos positions sur la Russie, un problème.
Aucun de ces alliés ne pose la question de la Russie. Ce qui est vrai, c'est que s'agissant des Polonais, il y a, et on peut le comprendre d'ailleurs, une vraie, une vraie inquiétude à l'égard de la Russie qui est liée à l'histoire, et nous respectons cela parfaitement. Mais vous savez, dans les partis politiques européens...
Mais du coup, les engagements, effectivement, de Marine Le Pen et du Rassemblement National semblent poser problème aux Polonais.
Mais nous, on est contre la guerre froide à l'égard de la Russie. On considère que les sanctions contre la Russie ont abouti à un embargo sur un certain nombre de nos produits, notamment agricoles, qui pénalisent les pays européens. Moi, j'étais en Finlande il y a quelques semaines. Eh bien, en Finlande, ils ont des liens commerciaux très étroits avec la Russie. Ils subissent de plein fouet les conséquences de cette espèce de guerre froide que mènent les institutions européennes contre la Russie. On souhaite un rééquilibre, un rééquilibrage. On n'est pas inféodé à la Russie. On sait très bien que la Russie défend ses intérêts. Mais c'est la réalité mondiale. Les États-Unis défendent leurs intérêts, la Russie défend ses intérêts. Il n'y a que l'Union européenne qui rechigne à défendre les intérêts vitaux de nos nations. Et ça aboutit à notre impuissance collective. Les grands pays européens, les plus peuplés, la France, l'Espagne, l'Italie, ont beaucoup plus rayonné à travers le monde quand ils n'étaient pas dans le carcan qui est devenu l'Union européenne que depuis qu'ils y sont. Donc on doit se poser la question. Comment se fait-il que plus on va loin dans le fédéralisme européen, au gré des traités successifs, Maastricht, Lisbonne, plus nos nations sont paralysées sur la scène mondiale?
Alors on
ça
détaille,
montre bien que
on détaille,
leur Europe n'est pas efficace.
On détaille ce projet européen dans un instant. Nicolas Bay, candidat sur la liste du Rassemblement National et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve à tout de suite.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nicolas Bay, eurodéputé et candidat sur la liste du Rassemblement National pour les élections européennes du 26 mai prochain, est l'invité du Grand Rendez-vous. Une question de Damien Fleurot sur le projet du Rassemblement National.
Oui, parce que dans votre projet, vous dites donc plus question d'abandonner l'euro, mais Marine Le Pen dit on renégociera les traités, notamment sur celui sur les libertés de circulation. Elle veut aussi remplacer les traités de libre-échange par des traités commerciaux. Mais sauf que cela ne passe pas par le Parlement, mais par une unanimité au niveau du Conseil européen. Comment est-ce que vous ferez, tout simplement, pour obtenir cette unanimité?
En se mettant à la table des négociations. On voit bien qu'aujourd'hui, cette règle de l'unanimité, elle est révélateur de ce qu'est devenue l'Union européenne.
Donc vous serez minoritaire.
C'est-à-dire que nous sommes attachés au principe du droit de veto de chaque pays, c'est-à-dire à l'unanimité. Les partisans d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent l'idée de passer un certain nombre de décisions qui sont déjà à la majorité qualifiée à la majorité simple, et de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée. Le but, c'est quoi? C'est d'imposer à des nations des projets qui sont absolument contraires à leurs intérêts et de ce qu'ils souhaitent. Voilà, c'est l'Union européenne punitive, coercitive. Il faut se mettre à la table des négociations pour renégocier les traités. Pourquoi? Parce qu'on va assister, et on assiste déjà d'ailleurs, à une situation de blocage. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un texte sur l'asile qui est la réforme Dublin 4 qui veut aller encore plus loin dans le laxisme en matière d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile qui aujourd'hui, même quand ils sont déboutés, ne sont pas expulsés. La Commission européenne a préparé le texte. Le Parlement européen s'est comporté une fois de plus comme la chambre d'enregistrement de la Commission, mais le texte est totalement bloqué au Conseil. Donc on voit bien pourquoi, parce qu'il y a des pays courageux comme l'Italie, comme l'Autriche, comme l'Hongrie qui disent non, on ne veut pas de ce texte-là. Donc on voit bien qu'on arrive à une situation de blocage qui va nécessiter une modification des traités. Il y en a déjà eu des modifications des traités.
Mais pour ça, il faut être à la table du Conseil européen. Juste, on veut comprendre. Là, c'est une élection. On va élire des parlementaires européens.
Bien sûr, mais aujourd'hui, il y a parmi nos alliés, on fait un travail commun avec nos alliés. Il y en a qui sont à la table du Conseil européen, qui y sont déjà. Et il y en aura sans doute encore plus demain. Donc, il faut enclencher cette procédure de négociation. Il y a déjà eu des modifications des traités européens. Malheureusement, elles n'ont pas été dans le bon sens. On l'a vu avec le traité de Maastricht, qui a été un point déterminant, un cliquet décisif. À nouveau, avec le traité de Lisbonne, qui a accru en pratique un certain nombre de pouvoirs de la Commission européenne, qui aujourd'hui détient un pouvoir exorbitant. Il faut bien comprendre qu'elle a l'initiative législative exclusive. Elle a ensuite un rôle décisif dans la législation et dans la réglementation, notamment avec les discussions internes.
Elle est l'émanation de votes nationaux. Hein,
Pas tout à fait. La Commission européenne, c'est un grand mercato entre les chefs d'État pour nommer des commissaires européens que personne ne connaît, qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui sont nommés pour 5 ans et qui ont des pouvoirs considérables pendant 5 ans.
Ils ont décisionnaires, ensuite, pas
indépendamment de l'initiative législative, ils ont ensuite la possibilité de contrôle de l'application par les États membres de leur décision. Et ils ont même, depuis le traité de Lisbonne, ils sont garants des traités, c'est-à-dire qu'ils font de l'immixtion, de l'ingérence permanente dans la politique des États membres. On le voit aujourd'hui avec la Hongrie ou la Pologne, qui sont traqués littéralement par les commissaires européens, pas simplement parce qu'ils mettent en place des réformes judiciaires qui ont eu l'onction du suffrage universel, mais qui ne plaisent pas
qui sont contraires aux valeurs érigées au niveau européen.
Mais qui décide si c'est contraire ou non aux valeurs? Est-ce qu'un commissaire européen que personne n'a élu et que personne ne connaît peut aujourd'hui dire votre politique qui a obtenu 50% des voix dans votre pays, elle n'est pas bonne? Et c'est ça le problème de l'Union
européenne
aujourd'hui.
Même le groupe auquel appartient Viktor Orban, le dirigeant hongrois, a fini par prendre des sanctions.
Mais le groupe, c'est le groupe PPE.
Oui.
C'est celui de Mme Merkel et c'est celui où M. Bellamy et ses amis vont aller siéger le 26 mai au soir. Ce groupe, il est responsable de toutes les grandes orientations. C'est le groupe majoritaire, le groupe en tout cas le plus important dans le bloc majoritaire. Et il est responsable de toutes les orientations actuelles de l'Union européenne pour une raison simple, c'est que c'est le PPE qui a la Commission européenne avec M. Juncker, le Parlement européen avec l'Italien Tajani et Tusk comme président du Conseil. Donc ils ont tous les pouvoirs. Donc l'Union européenne d'ailleurs qu'ils veulent aujourd'hui critiquer ou réformer, mais c'est la leur. Ils ont tous les leviers de commande.
Il y a un autre sujet sur lequel on ne voit pas très bien comment vous allez faire, c'est sur la Banque Centrale Européenne. Vous voulez changer sa politique pour tenir compte du chômage, par exemple, et en même temps, vous ne revendiquez pas la fin de l'indépendance de la BCE. Et du coup, il y a comme une contradiction là entre les deux.
Écoutez, on voit bien aujourd'hui que l'euro tel qu'il est géré par la Banque Centrale, qui certes est indépendante, au moins en théorie, mais qui est quand même installé à Francfort, et ce n'est pas tout à fait anodin.
Mais il faut bien l'installer quelque part.
Oui, c'est vrai, mais enfin, on voit que la manière dont est gérée la zone euro sert principalement, depuis le début d'ailleurs, les intérêts de l'Allemagne et des anciens pays de la zone mark, au détriment de la plupart des autres pays de la zone euro. Donc il faut, là encore, renégocier. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui subissent de plein fouet une monnaie qui a un niveau trop élevé pour leur économie et qui nous empêche d'en faire un outil qui sert à l'économie française. Mais c'est vrai aussi en Italie, en Espagne, au Portugal et même de façon encore plus spectaculaire dans des pays comme la Grèce. Donc il faut réfléchir à une autre gouvernance de la zone euro. On ne peut pas avoir comme seul objectif la lutte contre l'inflation. Il faut aussi avoir comme objectif la lutte contre le chômage. Il faut avoir une monnaie qui soit moins fortement évaluée. Ça permettra de relancer nos exportations, d'équilibrer notre balance commerciale. On a 60 milliards de déficit de notre balance commerciale. L'Allemagne, elle a des centaines de milliards d'excédents commerciaux. Donc on voit bien qu'elle est grande bénéficiaire de la gestion actuelle de la zone euro. Il faut, là encore, renégocier.
Voilà. Il faut. Vous dites beaucoup il faut, mais
oui,
c'est vrai qu'on peine à voir exactement comment vous
procédez.
Mais
parce que c'est l'intérêt de beaucoup de pays. Donc, il faut initier cette négociation. Enfin, les traités européens, ils ont été modifiés un nombre incalculable de fois.
Mais c'est parce que vous espérez avoir une majorité au Parlement européen. On a du mal à comprendre les leviers que vous espérez disposer pour effectivement aboutir à cet infléchissement de l'Europe que vous réclamez.
Je pense qu'on peut être en effet l'un des principaux groupes demain au Parlement européen et avoir des relais, comme on le disait tout à l'heure, au Conseil, avec des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres qui participent de notre coalition et qui auront leur mot à dire. Et puis, qui nommeront d'ailleurs accessoirement aussi des commissaires européens.
Mais si on ne doute pas qu'il y ait sûrement plus de députés qui vont rejoindre vos rangs, pour l'instant, on n'imagine pas que ça fasse un groupe majoritaire ou même de coalition, à moins que vous envisagiez une coalition
avec
quelqu'un d'autre.
Il peut y avoir, sur certains sujets, des coalitions. Vous savez, nous, au Parlement européen, contrairement à nos adversaires, on ne fait pas de sectarisme. Quand il y a un texte qui vient, y compris de la gauche ou de l'extrême gauche, mais qui nous semble conforme à l'intérêt général, on est prêt à voter pour. Donc il peut y avoir aussi...
Vous ne votez pas beaucoup pour au Parlement européen, c'est ?
Ça fait...
Vous votez beaucoup contre ?
Eh ben, je vous invite à analyser les votes et vous vous rendez compte que très souvent, même à chaque session, pour tout dire, à chaque session, on vote en faveur d'un certain nombre de textes, d'amendements, y compris quand ils sont présentés par nos adversaires, parce qu'on n'a pas une conception sectaire du combat politique. Nous, on sert l'intérêt général. On défend ce qui nous semble être l'intérêt des nations, et la nation française, mais aussi d'ailleurs, ce faisant, les autres nations d'Europe. Voilà. Nos adversaires fonctionnent différemment. Eux, par principe, même quand ils sont d'accord avec nos propositions, ils votent contre, pour des raisons purement politiciennes.
Alors, le localisme, c'est la grande nouveauté de votre projet cette fois-ci, comme si vous étiez converti à l'écologie d'un coup. Il n'y en avait pas un mot dans le projet des dernières européennes. Alors, l'idée, c'est la proximité, c'est de consommer, de produire local. Mais est-ce que ce n'est pas un peu une forme de baguette magique ? Parce qu'en même temps, vous êtes pour le nucléaire, contre les éoliennes, pour le glyphosate. On a l'impression que ce terme vous permet d'être écolo d'un coup. Voilà.
Nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée, ça doit faire partie du mix énergétique et c'est une énergie peu coûteuse. On a toujours été contre le glyphosate, tous nos votes en attestent sans aucun doute. Ce localisme et la nécessité du juste échange, c'est finalement le constat que ceux qui font de l'écologie punitive, qui demandent aux Français de plus utiliser leur petite voiture avec un moteur diesel pour aller travailler et qui essaient de culpabiliser nos compatriotes avec une fiscalité prétendument écologique qui vise à sanctionner ceux qui utilisent leur voiture, c'est ceux qui défendent aussi un modèle économique qui est profondément anti-écologique. Il n'y a pas plus anti-écologique de fabriquer en Asie des produits manufacturés qu'on vend ensuite en Europe avec un certain nombre de matières qui vont être retraitées sur le continent africain. Il y a 50 000 super-tankers, super-cargos qui sillonnent les océans et les mers du monde et qui polluent chacun plus que des millions de véhicules individuels. Donc sortons de ce modèle-là. Ce qu'on peut fabriquer et ce qu'on peut produire en France et en Europe, fabriquons-le et produisons-le en France et en Europe. Il faut privilégier ce qu'on appelle les
circuits
courts.
Donc c'est la réponse en fait à tous les problèmes de climat et d'environnement.
Non, c'est pas à tous les problèmes, mais produire, consommer, retraiter dans un périmètre géographique raisonnable chaque fois que c'est possible et n'avoir recours aux importations chaque fois que quand c'est indispensable, eh bien c'est un modèle beaucoup plus vertueux sur le plan écologique. Et on ne peut pas à la fois dire aux Français, vous devez travailler pour la planète, faire des efforts, alors qu'on a déjà le niveau de normes en France et en Europe le plus exigeant du monde en matière de respect de l'environnement, et dans le même temps accepter la concurrence déloyale de produits qui viennent à très bas coût, ne respectant aucune norme, ni sociale, ni sanitaire,
la mobilisation des enfants pour le climat, vous la comprenez ?
Moi je me méfie beaucoup de la manipulation des enfants, vous savez. Ça existait dans les régimes totalitaires. Il faut défendre l'environnement. Il faut
marcher pour le climat.
Mais c'est pas le problème de marcher, c'est d'agir. Voilà, c'est bien gentil de marcher, mais il faut agir concrètement. Et agir concrètement, c'est sortir d'un modèle de libre-échange transcontinental qui est profondément attentatoire à notre environnement. Et aujourd'hui, et de surcroît, il tue notre économie, ce modèle-là. Parce que c'est ce qui a anéanti notre industrie, ou presque anéanti l'industrie française, hier. Et c'est ce qui tuera notre agriculture demain, parce que les accords de libre-échange avec le Canada, avec les pays du Mercosur, le marché sud-américain, avec l'Océanie, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, ça va consister à faire venir du bœuf ou du lait de l'autre bout du monde, alors qu'il n'y a aucune logique. On a des capacités d'autosuffisance alimentaire en France, donc il n'y a aucune logique autre que faire fabriquer à très bas coût dans ces pays-là et tuer nos filières en France et en Europe.
Nicolas Bay, merci d'avoir accepté cette invitation. Très bonne semaine à tous, très bon dimanche d'abord, très bon dimanche Pascal. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec Les Échos et CNews.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.